Bien, on est toujours au Festival d'Art Sonic et on est actuellement accompagné de Fakir. C'est un auteur, compositeur et musicien français de musique électronique. Et bien pour commencer, comment ça va Fakir? Prêt pour ton concert de ce soir?
Ouais, carrément, ouais. Non, je passe pas tout de suite, j'ai un peu le temps de prendre l'apéro tranquille. C'est à 1h30 mon set, mais ouais, content d'être là.
Et tu es entouré par la musique depuis ton plus jeune âge, avec des parents musiciens. Pourquoi avoir choisi la musique électronique comme façon de t'exprimer?
Je dirais pour plusieurs raisons. En fait, je pense la principale, c'est la liberté. Parce que j'étais un peu comme toute notre génération, j'ai l'impression, mais un peu geek dans ma jeunesse, et en ayant appris la musique dès tout jeune, en fait, ça a été assez naturel en fait de m'orienter vers la musique électronique. Après, je suis pas du tout passé par un circuit traditionnel type arpenter les clubs et puis écouter la French Touch, Daft Punk, etc. Et tout, c'était pas du tout mon délire. J'écoutais beaucoup, moi, Massive Attack, Radiohead, Archive. Je suis arrivé dans l'électro par via le rock progressif et le trip hop. Du coup, voilà.
D'accord. Et peux-tu m'en dire un peu plus sur ton apprentissage et tes sources d'inspiration?
Mon apprentissage, c'est un truc, du coup ça remonte à très très loin maintenant. Du coup mes parents, disons, m'ont appris à lire la musique et à écrire la musique en même temps que j'apprenais à lire et écrire le français. Du coup c'était vraiment tout gamin, j'ai fait mes classes de solfège, je suis allé en école de musique, je suis allé au conservatoire, j'ai un peu squeezé la case conservatoire.
D'accord.
Et du coup ça a été très, tu vois, comment dire, un peu entre l'autodidacte et puis l'aide de mes parents qui en fait me baignaient là-dedans constamment. Du coup c'était hyper, ouais. Pareil, c'était hyper naturel en fait. Je me disais, bah tiens, je vais essayer d'apprendre cet instrument là et puis je regardais des tutos sur internet, ou alors je leur demandais conseils ou des trucs comme ça, et du coup c'est allé assez vite. Je suis pas un bon instrumentiste, donc j'ai pas un instrument vraiment dédié et sur lequel je suis fort techniquement en fait. Je touche un petit peu à tout et du coup je sais faire un petit peu de tout, pas très bien, mais c'est suffisant en fait pour faire de la musique électro sur un ordi, quoi.
Tu joues quoi un peu comme instrument?
Bah du coup c'est je joue piano, guitare, basse, je joue un peu de saxo, je joue un peu de batterie aussi, et finalement tous les trucs des machines électroniques et tout sur scène, c'est quand même quelque chose de très percussif. Donc en fait il y a vraiment une espèce de pareil, j'ai appris finalement les percussions via l'électro, quoi.
D'accord. Et nous pouvons entendre de nombreux samples dans ta musique, comment les choisis-tu?
Oh bah c'est vraiment parce que c'est beau, parce que je trouve ça beau en fait. C'est pas, y a pas une volonté de choisir réellement des samples qui viennent de tel ou tel endroit. C'est plus j'en trouve un, je trouve ça joli et je vais le choper. Alors ça peut venir autant de YouTube que tu vois, de compiles de musique de relaxation que tu trouves chez Nature et Découverte. Enfin y a vraiment plein de sources différentes, et je fais pas trop gaffe à la provenance. C'est à dire on va dire souvent, ouais, la musique de Fakir s'est teintée un peu asiatique ou africain parfois, etc. Mais en fait ça peut très bien aussi être un sample qui vient d'Amérique du Sud, d'Espagne, même je sais pas, de Suède, si jamais c'est cool, tu vois. Et du coup là ça vient d'un peu partout.
Yes, ça marche. Du coup on va parler un peu de ton dernier album All Glow, j'espère que je l'ai bien prononcé. Il est très différent de ce que tu as pu faire précédemment. C'est comme une parenthèse un peu dans ton art. Peux-tu me parler un peu de sa création?
Ouais, carrément. Bah c'était All Glow, c'est une période un petit peu je sais pas comment la voir en fait avec du recul maintenant. Je sais quand cet album est sorti, il s'est passé très très peu de temps avant que je le regarde un petit peu pas méprisant, tu vois, mais il y a eu un truc un peu où je me suis dit, oui, je me suis adonné en fait à un espèce de jeu un peu plus pop, un peu plus radiophonique, un peu plus ouvert sur le grand public, parce que je me suis dit je vais tenter le truc de suivre les conseils que me donnait mon label, qui est Mercury, qui est Universal, tu vois, qui est vraiment une major, une grosse boîte et tout, un peu l'usine, et qui m'ont dit, vas-y, collabore avec tel et tel artiste, fais des tracks un peu comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais jouer leur jeu pour voir jusqu'où ça mène et voir jusqu'où on peut aller en restant honnête, en allant dans ce game un petit peu plus, tu vois, mainstream. Et du coup All Glow est sorti de ça, donc il y a du coup certains singles sur All Glow qui sont très très pop, que même moi je trouve plus tellement intéressant maintenant à écouter, et puis il y a 2-3 tracks que je kiffe encore, qui restent un peu sur le long terme. Mais pour moi c'est, comme tu dis, une espèce de parenthèse un peu pop, et j'en reviens en fait vachement. Là je me dis, ça suffit en fait de prêter le flanc à des trucs que j'ai vraiment envie de faire maintenant, un album très perso et très... sans concession, tu vois. Et là c'était un album, All Glow c'est un peu l'album des concessions.
Ok, d'accord. Et tu parlais un peu de ton label, comment ça fait le rapprochement avec ce label?
Bah c'était un peu au moment où tu vois Fakir, ça a eu une espèce de montée en puissance en, je dirais, 2013-2014, un truc comme ça avec la Lune Rousse et tout.
Ouais.
Et
Morning in Japan.
Et ouais, Morning in Japan, tu vois, c'est vraiment le début du début.
Ouais, ouais.
Et Morning in Japan, pour moi, c'est encore une période où qui symbolise encore cette montée, mais dans le côté indépendant, tu vois. Il y avait vraiment finalement c'était Nova qui s'intéressait aux morceaux ou alors des labels indés, etc. Et c'était une période qui était assez agréable parce que finalement t'avais l'impression de faire moi j'avais l'impression d'évoluer dans un dans comment dire avec un public qui était hyper éduqué à cette musique là qui était hyper curieux de ce truc là et finalement avec la Lune Rousse ça a éclaté dans une sphère plus grande, plus grand public en fait. Et du coup à ce moment là il y avait beaucoup j'avais beaucoup du coup l'attention des labels, des grosses rues, tu vois, Warner, Sony, Universal, etc. Et c'est un peu Mercury du coup Universal qu'ont décroché le pompon et qui ont réussi à me convaincre et me dire vas-y viens on va faire un truc chouette. Et il s'avère que je suis encore avec eux, hein. En fait, de toute façon j'ai signé un contrat de 3 albums donc j'ai pas le choix. Et du coup là je vais sortir mon prochain album chez eux encore. Mais c'est vraiment, on parle pas la même langue de toute façon. Et ça fait ça pour tous les albums, même All Glows, tu vois, qui pour le coup je me suis dit vas-y ça va être un album pop, je jouais le jeu un peu des majors, des gros labels, des trucs, on va voir,
ouais.
Et en fait même si tu fais ça, de toute façon ils savent pas le travailler parce que c'est pas eux qui sont générateurs d'audience, c'est pas eux qui ont les idées, c'est eux ils sont soumis au diktat un peu des radios. Et du coup si ton morceau est pas approuvé par Virgin ou Energy ou je sais pas quoi, bah pff, next, parce que de toute façon ils signent 50 artistes par mois, donc y a pas pff, tu vois, où tu disparais dans une espèce de masse quoi.
Et après en fait c'est juste en fait la diffusion qui va être des concerts, on va essayer de trouver des dates si jamais ça marche quand même. Et dans ces moments là après c'est à toi de te vendre à l'intérieur de la maison de disques, etc. un petit peu.
Bah il y a un truc un peu comme ça. Après moi ce qui est cool c'est que du coup mon label était uniquement, enfin ça déjà c'est un contrat de licence, alors c'est un peu le terme contractuel machin etc. Donc moi je suis encore propriétaire de mes chansons, c'est à dire je leur file pas la musique que je compose, c'est moi qui suis maître de l'artistique en fait. Et du coup mes tourneurs, donc ceux qui s'occupent vraiment de la partie live, sont hyper indépendants de mon label. Et si jamais, enfin comment dire, en fait de toute façon quoi qu'il arrive eux ils vont m'organiser une tournée derrière et tout machin. Et j'ai l'impression que finalement ce qui m'a entre guillemets sauvé, j'étais pas perdu tu vois chez Mercury, mais ce qui a un peu sauvé le profil Fakir et qui l'a pas fait rentrer dans un truc trop bon, bah on va se dire non Fakir c'est vendu, c'est pourrave et tout, c'est le live en fait, c'est d'avoir continué à tourner dans plein de petits festivals, d'avoir fait plein de dates etc. Et en fait en live il y a quand même quelque chose qui se passe au-delà de l'album qui pourrait être un petit peu, on pourrait se dire bon il a vendu son cul tu vois. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi d'ailleurs.
Alors justement à propos du live qui peut être l'occasion aussi de reprendre un peu de liberté, ouais. On nous a promis pour Arsonic un nouveau live, alors à quoi s'attendre?
Alors bah du coup ça faisait 3-4 ans là que je tournais avec un groupe avec moi qui accompagnait sur scène, donc il y avait harpe, basse, clavier, batterie et moi je faisais des machines et un peu de guitare etc. Et là j'ai réduit vraiment l'effectif à donf et je retombe tout seul, donc je suis tout seul sur scène. Et je suis accompagné d'une scénographie qui est assez massive, qui est pour le coup composée de plein de totems avec de la vidéo. Enfin, il y a vraiment un contenu multimédia et tout qui est hyper travaillé. Où je suis assez content du truc parce que du coup, ça propose aux gens, j'ai l'impression, un spectacle un peu plus complet que juste un concert de musique, tu vois. Donc il y a vraiment un truc très immersif. Et puis moi, comme je suis tout seul à faire mes machines et je suis très dans ma bulle, etc., il y a quelque chose de. Je dirais, ma présence physique est peut-être moins importante maintenant. Et du coup ça laisse plus aussi le temps de, enfin tu vois c'est une musique qui se prête un peu à, qui invite au voyage toujours et tout machin, et là le show est calqué là-dessus et du coup ça y a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et pour le coup c'est vrai que c'est la première fois qu'on te présente en Normandie, d'ailleurs c'est peut-être même la première fois qu'on te présente en live avec la scène complète, parce que là on l'a tourné un petit peu, on a fait quelques dates avec mais à chaque fois c'était pas possible de mettre tous les totems, de mettre tous les trucs, et là il y a tout, donc je suis content.
Donc moi je t'avais vu il y a pas si longtemps au Biche Festival.
Ah bah oui,
grave. Par rapport à cette nouvelle scénographie, en fait celle du Biche c'était déjà la nouvelle ou c'était une plus ancienne?
Non, celle du Biche c'était rien en fait. Celle du Biche, on est venu sans scéno, j'étais tout seul avec un régisseur, enfin tu vois c'était vraiment en mode il y avait rien quoi. Moi je jouais sur une table et puis c'était juste des lumières et tout. Là pour le coup c'est à rien à voir. Je suis pas sur une table, je suis enfin, vous allez voir quoi.
C'est la surprise.
Tu parlais tout à l'heure donc de tes influences à la base, je t'ai parlé un peu aussi de Morning in Japan. Mais déjà je suis content de t'avoir en face de moi parce que t'es un petit peu celui grâce à qui j'ai découvert les musiques électroniques françaises à l'époque de Morning in Japan.
Yes.
Et justement je vais te demander si t'as beaucoup changé en fait, hein, t'as déjà pas mal changé de style avec All Glows, etc. Mais est-ce que t'avais encore par exemple d'autres idées pour même au niveau électro? Est-ce que t'as d'autres scènes électro qui te tentent
carrément
en ce moment?
Ouais, carrément. Bah tu vois, toute la vibe d'inspiration de All Glows, c'était une vague d'inspiration très américaine, je dirais, pour moi. Et parce que j'avais beaucoup tourné là-bas, j'ai beaucoup tourné avec des groupes de là-bas, etc. Et du coup, en revenant là, j'avais vraiment un peu naturellement cette impulsion de dire vas-y, j'ai envie de faire des morceaux un peu plus, je sais pas comment dire, un peu épique, tu vois, machin, ouais, qui pète, truc et tout. Et finalement, en reprenant du recul, en prenant un peu le temps et en vraiment rediguant dans ce que j'aime vraiment musicalement, je m'oriente vers quelque chose de beaucoup plus house, de beaucoup plus anglais pour le coup. Et qui va se rapprocher plus d'un Bonobo et tout. Enfin là, l'album que je suis en train de taffer, par exemple, j'aime bien me dire que je suis en train de mettre un gros coup de pied dans l'esthétique de Fakir telle qu'on la connaît. Et l'album que je vais proposer, ça va être un album beaucoup plus dansant, beaucoup plus club, mais pas club dans le sens fun radio, tu vois. Ça va être un truc beaucoup plus pointu, en tout cas j'espère. Un truc, c'est vraiment très forte de Bonobo, enfin mes premiers amours, quoi. Mais vraiment les inspirations de base, etc. Et là, je reviens à Don faire ça. Et voilà.
Et puis même quand tu parles d'influence anglo-saxonne, déjà tout à l'heure tu citais des groupes de downtempo ou des groupes, je pense à Morkiba, ce genre de choses. C'est peut-être ça aussi qui a pu influencer ton travail au début. Et
carrément.
Que des groupes anglais, ces trucs-là. La scène de Londres ou de Manchester et tout ça.
Complètement. Ouais, je me sens beaucoup plus proche de cette scène-là finalement maintenant que de la scène américaine qui m'a tenté à un moment donné, parce que c'est vrai que les Ricains, ils ont ce truc un peu séducteur de. Tu vas voir un concert de je sais pas qui. Bah, moi, par exemple, j'ai tourné énormément avec Odessa aux États-Unis. Et ça tourne dans des stades et tout, enfin, c'est un truc de maboule, c'est feu d'artifice, lance-flammes, etc. C'est vrai que quand tu reviens d'une tournée d'un mois avec eux, t'as un peu des étoiles dans les yeux, tu te dis putain, j'aurais bien retourné quand même la tronche des gens avec un truc un peu comme ça aussi en France. Et en fait on est, enfin je sais pas, c'est pas qu'on est pas prêt du tout, c'est on a une autre culture, on a un autre délire et en fait ça s'y prête pas. Et moi, en revenant un peu là et en me reconnectant un peu avec ce que j'aime, du coup je suis naturellement un peu éloigné de ce délire là quoi.
On a déjà pas mal évoqué le voyage, mais pour t'avoir suivi sur les réseaux sociaux, t'as posté aussi quelques photos de voyage récemment. Alors quels sont ceux qui ont pu t'inspirer dernièrement?
Bah là, moi, j'ai un voyage qui m'a beaucoup marqué cette année, parce que je suis parti 3 semaines en tournée au Chili au mois de février-mars. Et c'était une tournée, enfin tu vois, on est parti 3 semaines et j'avais 9 dates, donc en fait il y avait énormément de temps aussi. On pouvait chiller, se balader, faire des randos, des trucs et tout. Du coup, il y a eu ça s'est transformé petit à petit en espèce de colo de vacances avec des potes. Et genre, je suis revenu avec un tas d'idées, plein d'inspirations, plein de trucs nouveaux, tu vois. Et puis c'est vrai qu'en plus, c'était rigolo parce que c'était tourné dans un pays qui a pas du tout de scène de musique électronique vraiment installée, à part cette scène un peu de cumbia, tu vois, de musique sud-américaine qui est très active. Et sinon, la musique électro, type house, club, etc., c'est vraiment un public hyper, hyper restreint. Du coup, c'est hyper cool, tu vois, de tourner, d'arriver dans des tout petits clubs et tout. T'as 50 personnes en face de toi, mais en fait, 50 personnes qui ont vraiment digué, qui ont vraiment la curiosité de cette musique là et tout, c'était hyper intéressant quoi. J'ai l'impression d'être revenu en 2011 au moment où personne faisait ça et puis tu faisais tes petits trucs et puis t'avais une MPC et puis les gens ils disaient c'est quoi ce truc alors que maintenant tout le monde connaît, tu vois.
Et tu vois quand tu passes dans des festivals que ça a changé quand même le rapport à cette musique
a changé. Bah carrément, il y a un truc naturellement, d'ailleurs c'est un peu la volonté aussi dans cette scéno, c'est à dire que au tout début de Fakir il y avait vraiment ce truc, moi je voulais montrer aux gens qu'il se passait quelque chose vraiment sur scène et qu'on n'était pas juste derrière, parce qu'il y avait cette image de DJ très présente en mode on est sur une table et puis on appuie sur play et voilà on fume des clopes, et en fait c'est pas le cas, tu vois. Et il y a du coup j'avais penché mes machines vers les gens un peu dans cette volonté là de ludique, un peu de montrer voilà il se passe des trucs et puis plein de gens le faisaient en même temps que moi, tu vois, dans toute cette période là Môme, Petit Biscuit, même si tous ils avaient fait ça à l'époque, pencher leurs machines, montrer ce qui se passe et tout, et je trouvais ça hyper bien, hyper didactique. Et maintenant j'ai l'impression que c'est acquis, maintenant j'ai l'impression que les gens savent et comprennent, et qu'en fait oui, il se passe des trucs dans la musique électronique. Et du coup, il s'agit de. Enfin, j'ai l'impression que maintenant le défi, ça va être de proposer justement plus que ça aux gens et d'essayer de les embarquer dans ton univers. Mais on n'a plus à faire nos preuves en fait en tant que producteur.
Ce qu'on a vu un peu avec Krone, par exemple, sa dernière tournée où il avait fait une espèce de scénographie vachement impressionnante, avec des immeubles et tout, des gratte-ciels et tout. Et c'est vrai que maintenant, un peu la scène électro, on est habitué à voir juste un mec derrière des platines, mais c'est normal, c'est comme
ça. Oui, c'est normal, ouais, voilà.
Mais après, est-ce que c'est pas aussi un peu triste que quand on pense qu'à une époque, quand l'électro et la house et la techno a commencé, c'était dans des clubs, en fait les gens ne regardaient pas le DJ. Ils savaient qu'il était là, mais il était dans un coin de la pièce.
Oui, carrément.
C'est vrai que maintenant on peut plus danser comme ça dans un spectacle en se tournant face aux gens.
Non, c'est vrai, c'est clair. Mais il y a une dimension vraiment live qui est arrivée dans la musique électronique qu'il n'y avait pas avant. Et pour le coup, c'est, moi je trouve que ça a apporté, ça a apporté énormément à la musique électronique, parce que du coup, il y a vraiment deux catégories qui se distinguent, vraiment les producteurs, enfin, j'appelle ça un peu comme ça, les producteurs de musique et les DJ. Et c'est pas du tout le même boulot. Moi, je vois, j'ai commencé en étant directement producteur de musique et pas du tout DJ. Et je vois les mecs, enfin des grands DJ, tu vois, qui font leur taf. C'est un boulot qui est monstrueusement compliqué, qui est hyper technique et tout ça, que je pourrais pas du tout faire. Et c'est du coup, c'est cool parce que ça enrichit vraiment la scène électro, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a ce genre de lien, voilà, entre les artistes électro. Justement, toi, t'as jamais voulu te lancer un peu dans le DJing, juste comme ça?
Si, pour le plaisir, je le fais. Et j'en fais pour le plaisir, vraiment pour, voilà, pour rigoler. Jamais je suis. J'aime trop. En fait, je trouve ça trop classe, tu vois, de vraiment faire du DJing et de le faire bien et tout. C'est trop la classe. Mais je me réclamerai jamais. Je me dirai jamais, voilà, je suis DJ, je sais pas quoi et tout, machin. C'est un taf hyper particulier, quoi.
Ouais. Puis en même temps, c'est mieux peut-être aussi un peu la création. Si tu étais plutôt dans la création, DJ Fakir, je sais pas s'il y aurait en fait un intérêt en soi.
Bah non, du coup, carrément. Je le cite beaucoup, mais c'est un mec que je trouve assez exemplaire sur sa carrière, et puis même musicalement et tout. Mais Bonobo, il a vraiment ce truc de, tu vois, ça fait un moment qu'il est dans le game déjà, et quand il sort un album, il fait un an de tournée live avec un groupe où ça joue vraiment en concert, un peu tôt dans les festivals, etc. Et l'année d'après, il arrête sa tournée live et il fait que du DJ set. Et du coup, j'imagine que économiquement ça doit être vachement plus viable aussi, parce que du coup un DJ set,
ça, tu dis que pendant ce temps-là il est en train de faire un album.
Exactement. Et pendant ce temps-là il fait son album. En parallèle il fait des DJ sets, donc il s'éclate. Et après boum, il retourne avec son groupe et tout. Et c'est un espèce de circuit hyper intelligent en fait. Ouais.
Et c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'on voit que par exemple Bonobo il se réinvente aussi vraiment bien. Moi je pense à son EP genre Pélican, qui était vraiment éloigné de ce qu'il avait fait avant.
Grave.
Lui plus techno en fait.
Bah ouais, de ouf.
Mais c'était vraiment super. C'est vrai que si tu dis qu'il a fait du DJing pendant un an avant, c'est peut-être parce que du coup il a écouté des choses.
Ouais, c'est ça, il est influencé par son année de DJ et tout, et c'est bien. C'est vrai que c'est un mec il a beau être là depuis 20 ans, il est jamais tombé dans le côté ringard, redite, il se réinvente toujours, quoi.
Alors moi je voulais revenir un peu sur ton dernier album Alglow, car sur cet album on peut découvrir une collaboration avec Ibrahim Malouf sur le titre Scarlet Féminine. Du coup je me demandais un peu comment s'est faite cette collab, à partir de quoi
Ça s'est fait à partir de pas grand chose en vrai. Ibrahim Malouf, il m'a écrit, on s'est écrit à un moment donné, parce qu'il était question que je remixe un de ses tracks, et finalement ça s'est pas fait, et en fait on est resté un peu en contact comme ça. Et quand j'ai sorti quand je préparais mon album, en fait je lui ai envoyé tout l'album et je lui ai dit, écoute mec, moi j'adorerais avoir ta trompette en fait sur un des track choisi. Oui. Et il a choisi Secret Féminine, et du coup ça s'est fait comme ça, et ça s'est fait vraiment par mail. Et en fait on s'est rencontrés pour de vrai à la première date où il est venu jouer le morceau, c'était à Paris en avril dernier. Et il est arrivé et le mec est archi sympa, enfin c'est vraiment une grosse crème, trop cool et tout, ça s'est super super bien passé. Mais tu vois, ça a été une collab par mail. D'ailleurs comme la collab avec Jane sur l'EP d'avant, il y a beaucoup de collabs comme ça qui se font vraiment à distance, en mode t'envoies juste le morceau, ça plaît, et puis pouf, ça se fait comme ça, quoi.
Parce que du coup je te demandais ça parce que quand on parcourt un peu ta discographie, je constate qu'on a peu de collaborations avec d'autres producteurs de musique électronique.
Ouais.
Est-ce une volonté de ta part?
Bah ouais, en fait c'est dur de collaborer avec des mecs qui font déjà la même chose que toi.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si tu disais un groupe de métal de faire un featuring avec un autre groupe de métal. c'est chelou. À la limite tu fais des featuring avec des chanteurs, tu peux voir des groupes qui collaborent avec le chanteur d'un autre groupe ou machin comme ça, parce que c'est un signe caractéristique, c'est la voix, c'est le truc. Mais un producteur de musique électronique, du coup, à part un mec qui aurait une patte archi ultra identifié, tu vois, je sais pas, mais même on s'y perdrait, tu vois. C'est pour ça qu'il y a jamais eu de collab entre, tu vois, Petit Biscuit, Môme ou moi, ou des trucs comme ça, parce que on fait la musique qui est très proche, et en fait je sais pas, ce qu'on se retrouve en studio un peu comme des cons, genre bah oui je penserais bien faire ça, puis on aurait la même idée, tu vois, du coup se retrouve un peu couillé. Du coup il y a toujours ce truc, moi j'aime bien faire de collab avec, alors déjà les collabs, moi je suis un petit peu nazi, enfin pas nazi, mais genre j'aime bien en fait que ça se passe humainement, c'est à dire qu'on se retrouve à parler d'autre chose que du taf, que tu vas boire une bière avec le mec, et puis en fait tu peux parler de la vie, déconner et tout machin, et ça se passe humainement cool, et du coup après tu fais du son, donc du coup ça réduit déjà vachement les collaborations. Et puis après je suis très ermite, et j'aime bien quand je suis en phase de création, généralement j'aime pas trop ouvrir ma bulle, et du coup c'est assez difficile de collaborer finalement. À part, tu vois, le dernier album il y a beaucoup de collabs, beaucoup de featuring, et finalement j'ai l'impression que c'est ce qui a comment dire, c'est ce qui a contribué à ce que cet album soit très pop et très mainstream et tout machin. Et finalement, les tracks que je garde moi en tête de mon dernier album, c'est les tracks où je suis tout seul.
Ok, d'accord.
On va devoir pas tarder à conclure malheureusement. Est-ce que tu as peut-être une dernière question?
J'en ai une aussi. Mais une petite dernière, c'est du coup, on sait que la scène électro-française s'est beaucoup développée ces dernières années. Trouves-tu qu'il est plus difficile de se démarquer qu'avant?
Bah, je trouve qu'il est plus difficile de se démarquer qu'avant. Aujourd'hui, ouais, mais pas parce qu'il y a trop de monde, mais parce que en fait, l'attention est ailleurs. Là maintenant, j'ai l'impression que ce soit au niveau des festivals, des médias, des labels et des trucs et tout machin. De toute façon, c'est le hip-hop qui a tout en ce moment et qui a les spotlights là-dessus, que c'est sur eux. Et c'est une super bonne chose. C'est une super bonne chose pour la scène électronique, moi je pense, parce que ça permet aux producteurs de revenir un petit peu dans leur laboratoire et d'expérimenter d'autres choses, parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression de médias, il n'y a pas de pression de labels, il n'y a pas d'attente de gens. Finalement, on peut juste s'éclater et faire des trucs qui nous plaisent sans qu'il y ait de véritable attente. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur de se démarquer aujourd'hui, mais en même temps c'est aujourd'hui, je pense, qu'il faut faire le bon move et c'est aujourd'hui qu'il faut installer sa fanbase, installer son truc, tourné en live à Donf, tenter les trucs les plus ouf et tout machin. C'est maintenant que ça se passe pour moi, et c'est pas au moment où le spotlight est sur, enfin c'est pas au moment où l'attention est sur l'électro qu'il faut agir. C'est comme pour le rap, c'est comme pour le hip-hop. Maintenant, les mecs qui sont installés maintenant, type Lumpal, Romeo Elvis et tout, ont commencé avant que la hype soit sur eux. Et aujourd'hui que la hype est sur eux, tu vois des milliers, des centaines de projets de petits rappeurs qui arrivent, qui débarquent et tout, ouais, machin, qui font leur truc. Et forcément, ils sont noyés dans la masse, parce qu'en fait, il y a trop de choses, il y a trop d'offres. Du coup, c'est au moment où c'est le plus discret qu'il faut agir, je pense.
Ouais, je pense que t'as plutôt raison aussi. C'était pour peut-être une question aussi.
Moi je fais un petit mot à la limite. C'est parce que du coup tu parlais de rap là. C'est vraiment tout le monde est orienté vers le rap et les petits rappeurs sont noyés dans la basse. Et juste après toi là, on va recevoir 47 Terres. Est-ce que t'as un petit mot là-dessus?
En vrai, je connais pas du tout. Je crois que c'est du même crew. Enfin, j'ai une pote qui bosse avec eux, il me semble.
Ils sont
de quoi?
Ils sont du coin.
Des Yvelines.
Ils sont des Yvelines, c'est ça? Ouais, je m'étais trompé tout à l'heure alors.
Tu vois, j'écoute pas du tout. Je sais pas du tout qui fait quoi. J'ai écouté forcément les grands, tu vois, Lumpal, Romo Elvis et tout machin qui casse tout un peu par curiosité. Mais c'est pas du tout ma cam, mais c'est pas du tout mon délire de son. Du coup, 47 Terres par exemple, je vois pas du tout ce qu'ils font quoi.
Et pour enchaîner aussi terminer sur tes goûts aussi, on parlait d'électro tout à l'heure et d'électro française. Est-ce qu'il y a justement des noms en ce moment sur la scène électro-techno en France qui t'intéressent et ou du moins que tu admires particulièrement, ou même avec qui t'aimerais travailler si jamais?
Je t'avoue que non, c'est pareil. En plus, je suis pas trop digger de j'écoute pas énormément de musique électronique en fait. Je suis très branché world et tout machin, et du coup je digue pas trop. Et dans la musique électro, je vais rester vraiment sur mes classiques, tu vois. Donc ça va être très Forte de Bonobo, Amon Tobin et tous les trucs comme ça que je continue à saigner année après année. Mais je saurais pas te dire vraiment le petit nouveau qui va tout défoncer. Je saurais pas dire. Puis en plus, comme tout le monde est très discret sur la scène électronique en ce moment, il se passe pas grand chose, tu vois. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui émergent quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu
Merci
à mes
beaucoup.
Questions et à nos questions. Fakir. C'est bientôt, c'est à 1h30 ce soir.
1h15. Voiture de pas louper. Non, c'est ça,
1h30. 1h30, le live.
Et je conseille d'arriver un peu en avance.
Ouais, il y aura du monde. Il y aura du monde pour cette première version du coup. Première version de la scène, ce nouveau tour.
Ouais.
Et puis peut-être de futurs projets qui arrivent aussi.
Grave. Printemps 2020.
Voilà. Ce soir, on devrait pouvoir entendre Chakra.
Bien sûr.
On va l'écouter tout de suite.
Allez.
Merci beaucoup, Fakir.
Merci.
Merci beaucoup.